qui m'étonne le plus dans les arbres, c'est la disproportion incroyable entre la sobriété de leurs besoins, le peu qu'il leur faut, et puis la formidable réalisation qu'ils ont fait avec ça. Les plus grands êtres vivants, depuis l'origine des êtres vivants, ça a toujours été des arbres.
Eh bien, ce sera climatique, politique et esthétique ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Ce sera à Venise, sa Biennale internationale d'art contemporain, avec des arbres qui dansent, un amphithéâtre de mousse, des jeux dont on ne connaît pas les règles et des préoccupations politiques d'ordre post-colonial. Avec Manou Farine, on a rencontré d'abord l'artiste Céleste Boursier-Mougenot et sa commissaire Emma Lavigne, qui présente Révolution au pavillon français. Puis ce sera au tour de Boris Achour avec sa pièce Des jeux dont j'ignore les règles, exposée dans le cadre de l'exposition internationale All the World's Future, le projet politique du commissaire Okwi Endesor. Et encore de la politique avec le pavillon belge, où on a donné la parole à Vincent Messens et Mathieu Aboninck sur des questions post-coloniales de modernité liées à l'international situationniste, qui est l'enjeu direct d'une exposition qu'ils ont titrée « Personne et les autres ». Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture d'Adrien Nazelli, que l'on ouvre sur le son du jour.
C'est nul ce musée, ça fait carrément faux.
Le musée s'anime et prend vie pendant la nuit.
Oh ah,
c'est franchement énorme.
Bonsoir Adrien Nazelli.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et c'est énorme.
C'est le son du blockbuster La Nuit au Musée que j'ai choisi pour annoncer la 11e édition de la Nuit Européenne des Musées. Ce sera samedi, entrée libre pour 1300 musées en France, 3400 dans toute l'Europe. L'enjeu est bien sûr, de favoriser l'accès aux collections au plus grand nombre. Chaque année, ce sont près de 2 millions de visiteurs qui passent leur nuit dans les musées.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. La France va rendre un véritable trésor à la Chine, des pièces archéologiques qui auraient été pillées dans les années 90. Un type de restitution assez courant, mais cette fois, le ministère de la Culture a contourné la voie légale pour accélérer la procédure, ce qui a déclenché la colère des conservateurs, des marchands d'art et des collectionneurs.
Oui, d'abord un petit retour historique sur cette affaire. Au début des années 90, le galeriste Christian Dédier achète une soixantaine de pièces précieuses à Taïwan, des plaques en or chez un marchand d'art. Il ignore à l'époque qu'elles pourraient provenir d'un pillage. L'homme d'affaires François Pinault lui achète les 4 pièces les plus importantes pour la somme d'1 million d'euros et les deux collectionneurs décident de faire un don au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques en France. Le musée était alors dirigé par Jean-François Jarive depuis 22 ans et il n'avait semble-t-il jamais lu les réclamations de certains responsables du patrimoine chinois. En novembre dernier, une nouvelle directrice arrive, Sophie Macariou, et elle reprend l'affaire. Elle se rend à Pékin, elle promet la restitution de toutes les pièces et elle en réfère à Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, qui ne va pas passer par la voie légale. Elle demande directement à François Pinault et à Christian Dédier d'annuler leur don. Or, un don est irrévocable. Pour le journaliste Vincent Noss, c'est un cadeau diplomatique. On l'écoute.
Demain, les ministres pourront décider que telle pièce, tel objet, tel livre à la Bibliothèque nationale, tel manuscrit, telle peinture, on va la rendre en cachette. Tout ça a été lancé au moment de l'année France-Chine, qui célébrait le 50e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques franco-chinoises, et justement, comme par hasard, juste avant le voyage de Laurent Fabius en Chine. Donc là, il y a un soupçon. Et dès que vous faites quelque chose en cachette, les gens pensent que vous avez quelque chose à cacher. Tous les conservateurs, les directeurs de musées, les présidents d'établissements publics m'ont dit en privé, confidentiellement, qu'ils étaient horrifiés. La culture, c'est aussi du débat public. Ces pièces, elles n'appartiennent pas à la ministre. Elles appartiennent à la nation. Elles appartiennent à la collectivité. C'est nous qui les avons acquises. C'est nous qui les avons achetées, éventuellement. Et donc, ces pièces, on ne les distribue pas comme cela.
Finalement, ce n'est pas la légitimité de la restitution des œuvres qui pose problème dans cette affaire, c'est surtout la question de savoir pourquoi la ministre a voulu accélérer la procédure.
En fait, la ministre aurait pu tout simplement mettre les pièces en dépôt en Chine en attendant que le processus parlementaire se mette en place. Car la seule manière d'annuler un don à un musée public, c'est de passer par un vote au Parlement. Si Vincent Noss évoque un possible cadeau diplomatique, c'est que Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, se rend demain à Pékin avec le galeriste Christian Dédier qui, lui, a décidé de remettre ses œuvres publiquement à Pékin.
Je vais faire une grande fête avec mes copains chinois, on va aller faire un bon dîner. Après ça, ils vont être contents, ils sont ravis d'avoir eu une restitution sans avoir appliqué la réclamation normale. Et ils nous ont roulé dans la farine. J'avais dit à un des conseillers, mais il avait été très vexé, j'avais dit que, comme toujours, on baissait notre pantalon devant les Chinois. Les donations sont des biens inaliénables, normalement, dans la culture française. Maintenant, je ne ferai plus aucune donation au musée et j'encouragerai tous mes amis à ne plus faire de donations. J'ai mon nom qui est sur le panneau des morts à l'entrée du musée Guimet. J'ai donné des pièces majeures dans l'archéologie chinoise, un reliquaire en argent qui est l'un des plus beaux hors de Chine. J'ai mon nom au musée Chernouski où j'ai donné 60 ou 70 pièces et autres dans ma carrière. C'est fini, mais là, il n'y aura plus rien. Et dès qu'il y aura un de mes collectionneurs qui aura la malheureuse idée de me dire « on fait quelque chose », je dirai « fini ». Donnez à d'autres musées ou vendez, mais ne donnez plus au musée français.
La déclaration est assez forte. Le problème pour Christian Dédier, c'est que dorénavant, les Chinois vont pouvoir réclamer d'autres pièces qui ont effectivement été pillées.
Oui, on en a la preuve scientifique, par exemple celles du Palais d'été qui sont au château de Fontainebleau ou encore celles de la Bibliothèque nationale de France et beaucoup d'autres au musée Guimet. Les galeristes et les marchands d'art sont furieux. Christian Dédier, qui a été président du syndicat national des antiquaires, dénonce la procédure, mais a dû s'y plier sur demande de Fleur Pellerin. Fleur Pellerin qui n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier.
Tout de suite, Adrien, on passe au bref.
La Corée du Sud sera le prochain pays invité d'honneur au Salon du Livre 2016 et pour l'occasion, le Centre National du Livre décide de mettre en place un accompagnement pour financer la traduction d'œuvres coréennes en français. La prise en charge des coûts par le CNL pourra aller jusqu'à 70%.
Versailles inaugure un nouveau bosquet.
C'est le bosquet du Théâtre d'Eau. Il a été dévasté par la tempête de 1999. Pour le rénover, le château a fait appel au paysagiste Louis Bénèche et au plasticien Jean-Michel Autoniel, qui a réalisé trois sculptures composées de perles en verre. Ils affirment, je cite, que c'est tout à fait dans l'esprit de ce que Le Nôtre et Louis XIV auraient voulu.
Une conférence pour lutter contre les destructions du patrimoine par l'État islamique.
Elle se passe au Caire, organisée par des responsables de l'UNESCO et de 11 pays arabes. Elle vise à lutter contre les destructions sans précédent des vestiges de l'Antiquité par le groupe terroriste. La directrice de l'UNESCO, Irina Bokova, estime qu'il s'agit de crimes contre l'humanité.
Et la dernière, Adrien ?
La dernière, c'est la découverte d'une cité engloutie, un mythe qui finalement n'en est pas un. Une équipe d'archéologues a retrouvé une ville antique disparue sous la Méditerranée il y a environ 1200 ans le long des côtes d'Égypte. Il pourrait s'agir du port légendaire de Tonis Héracléion. Une victoire pour Franck Godio, l'archéologue qui plonge depuis plus de 20 ans dans la Méditerranée à la recherche de ce trésor perdu. Jusqu'à sa découverte, on ignorait si cette ville mentionnée par Hérodote existait vraiment. Elle a été engloutie à 45 mètres sous l'eau vers l'an 700 à cause d'un phénomène de montée des eaux et d'érosion du sol. En tout cas, il s'agit apparemment d'un port gigantesque, sûrement le plus grand de l'époque. Franck Godio présentera d'ailleurs une exposition à l'Institut du Monde Arabe à partir du 8 septembre sur la découverte de sa vie.
Merci Adrien, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture, un journal que l'on peut podcaster pendant combien de jours ?
On peut le podcaster pendant 1000 jours, vous pouvez le réécouter sur le site franceculture.fr.
Et on part tout de suite avec Manu Farine, direction Venise, la Biennale internationale d'art contemporain. C'est parti.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
C'est parti pour une émission spéciale Biennale internationale d'art contemporain de Venise. On y était mercredi dernier avec Manu Farine, une biennale aux propos politiques, sous l'impulsion de son commissaire Okui Envezor. Mais les enjeux politiques prennent plusieurs formes. Premier arrêt, ça a été le pavillon français dans les Giardini, donc à Venise. Pour la première fois cette année, l'Institut français n'a pas désigné l'artiste invité, mais a lancé un appel à projet. Et c'est le projet Révolution, puisqu'il y a un accent circonflexe sur le « et » de rêve, Révolution, qui a été retenu. C'est celui du binôme Céleste Boursier-Mougenot, artiste, et Emma Lavigne, qui est la directrice du Centre Pompidou-Metz. D'abord, un mot sur Céleste Boursier-Mougenot. C'est un artiste qui a d'abord eu une formation de musicien classique, puis qui a longtemps été le collaborateur, le compositeur du metteur en scène Pascal Rambert, avant de changer de mode de diffusion et de passer du côté de l'exposition, cela au début des années 2000, Manu.
Alors, de ce passé de musicien, Céleste Boursier-Mougenot a gardé son intérêt évidemment pour le son, pour sa fabrication, ses signaux de diffusion, qui va monter par exemple en boucle, en circuit, en Larsen, qui va convertir en images, ou alors parfois l'inverse, c'est-à-dire qu'il part d'images qu'il convertit en signaux, et toujours en live, toujours en direct. Ça donne par exemple des oiseaux qui se posent sur des guitares électriques et qui produisent des sons par leurs mouvements sur les cordes électriques. Je pense à une autre pièce, Klinamen, qui sont des bols, sorte de bols tibétains dans une piscine à faible courant qui, quand ils s'entrechoquent, provoquent une sorte de chorégraphie sonore. Mais on peut aussi citer ces bruits formés, c'est d'ailleurs ce qu'il voulait faire ici à Venise, c'est-à-dire convertir les sons émis par les arbres qui entourent le pavillon français et les convertir en un toit d'écume qui devait littéralement recouvrir couvrir l'architecture du bâtiment.
Mais il n'a pas pu réaliser cette partie du projet et aujourd'hui, Révolution à Venise, ça consiste en un balai de 3 arbres déracinés, 3 immenses conifères en mouvement, il y en a 2 devant le pavillon, 1 qui est à l'intérieur, des sculptures naturelles qui répondent à de mystérieux stimuli qui les animent. La première question qu'on a posée avec Manu, c'est comment ça marche? Qu'est-ce qui anime ce mouvement extrêmement lent des arbres? Réponse avec Céleste Boursier-Mougenot et Emma Lavigne.
On a eu la chance de travailler sur ce projet avec des chercheurs en robotique du LAS donc, et du CNRS, basés à Toulouse, et qui avaient vu mes travaux, enfin ma pièce, mon exposition aux abattoirs l'année dernière avec la pièce Off-Road, qui veut dire donc hors-piste, et qui était 3 pianos qui se déplaçaient dans la fosse des abattoirs. Et à partir de là, on a pu réellement travailler avec ce qui se fait de mieux en robotique industrielle. L'idée, c'est de donner les moyens de faire bouger très lentement et faire bouger très lentement un arbre ou n'importe quelle masse, objet massif qui pèserait plus de 3 tonnes. Ça demande évidemment aujourd'hui des techniques particulières. Plus on veut aller lentement, plus c'est volumineux en fait. Les motoréducteurs qu'on est obligé de mettre, de connecter au moteur, prennent une certaine place. C'est difficile de faire aller sans à-coups un objet très lourd, très doucement.
Je vais plus dire que c'était lié à la sève qui était produite par les arbres.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on dit, vous savez, Francis Allais a dit que les arbres avaient des émotions. En fait, on a découvert que les arbres, émettent des phéromones, comme d'autres êtres vivants, et qu'ils sont capables de communiquer à partir de ça. Or, on ne peut pas faire des manipulations directes, ça passe par des labos, en fait, pour pouvoir détecter ces choses-là qui sont imperceptibles, qui existent, qui sont perceptibles sous la forme du parfum des fleurs qui attirent les insectes et tout ça, mais qu'il y a d'autres formes, par exemple, lorsque un arbre a ce qu'on appelle un stress hydrique, c'est-à-dire manque d'eau, il va émettre ce type de phéromone, mais aussi s'il est attaqué par des insectes ou par une bactérie ou par un champignon, s'il y a un problème, ou mangé par un mammifère. Or, ces émanations, on pourrait dire, de molécules phéromonales sont toujours liées plutôt à l'idée d'un stress, quoi. Et je voulais pas baser, évidemment, le travail sur l'idée que la plante est stressée. Ça me paraissait être un mauvais point de départ. Par contre, on connaît pas d'émotion de bonheur des plantes, quoi. Je savais par ailleurs qu'on pouvait mettre des sortes de petits cathéters sur les plantes, par exemple pour mesurer les taux d'hormones, le pH qui changerait et tout ça. Et il s'avère qu'un scientifique du CNRS, M. Granier, a inventé il y a une quarantaine d'années des sondes qui en fait mesurent le débit de la sève primaire qui monte donc dans l'arbre. Et c'est très simple avec ce système qui est ce qu'on appelle un thermocouple, en fait, une sorte de petit chauffage et un thermomètre qui détecte. On peut mesurer la vitesse de la sève. Or, un arbre dans la sève tire bien, c'est un arbre en bonne santé. On suppose qu'il est plutôt dans des bonnes dispositions pour ensuite bouger. L'idée étant, c'est vraiment un dispositif expérimental dans le sens où, évidemment, vous le voyez aujourd'hui à la Biennale sous la forme d'une pièce comme ça qui est reconditionnée. Mais c'est l'idée de voir si les arbres, si on leur donnait des facultés motrices et s'ils étaient hyper stimulés par en fait ce flicker, on pourrait dire, cette alternance de lumière et d'ombre, qu'est-ce qu'il en sortirait? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Et donc j'ai conçu ce dispositif expérimental qui ensuite aujourd'hui va vivre sa vie. Il va vivre sa vie dans un premier temps à la Biennale. Et pour moi, ce n'est que le début, on pourrait dire le prototype d'une expérimentation qui va occuper tout le reste des années que j'ai à vivre. J'ai comme l'intuition et le rêve aussi de me dire qu'on pourrait voir émerger une autre forme de déterminisme chez les plantes. Parce que les plantes savent parfaitement où est la lumière quand elles sont à l'ombre. Vous voyez, c'est cette question un peu très naïve et en même temps assez sournoise, quoi.
Quand on entre dans le pavillon que vous avez voulu à ciel ouvert, on va trouver un autre de ces arbres au centre, dans une sorte de, comme une sorte de cirque. 3 pièces qui vont entourer cet espace central, dans lesquelles vous avez disposé des sortes de marches en mousse sur lesquelles les spectateurs vont venir s'étendre, un petit peu entre salle de repos, salle de méditation et puis hémicycle de théâtre. Quelle serait la pièce qui s'y joue, Emma Lavigne ?
Alors je pense que de la même façon que Céleste a extrait véritablement à partir de ces flux de vie qui sont contenus dans les arbres un mouvement, donc à partir de la circulation de la sève, dans ces trois danseurs, hein, d'une sorte de chorégraphie animiste et très lente, Céleste a de la même façon extrait, donc à partir de l'électricité contenue dans les arbres, donc une œuvre sonore. Le pavillon devient véritablement le lieu d'une expérience, complètement inédite, d'un nouvel état de nature où en fait il y a cette attention à l'invisible, au tout petit, à quelque chose qu'on ne pense pas percevoir mais qui a une réelle existence. Donc on peut peut-être dire que le pavillon français devient une sorte de caisse de résonance de ces phénomènes inaudibles déjà, en même temps que le lieu de la visibilité de ces formes de vie bien réelles mais invisible en temps normal. Donc c'est tout ça à la fois. Ça va également plus loin parce que de la façon dont Céleste extrait justement ses énergies, il a extrait de ce pavillon de style Beaux-Arts, presque une forme d'anachronisme. Il a été construit en 1911. On aurait très bien pu choisir un architecte moderniste pour justement porter les couleurs de la France. La France a souhaité un pavillon de style Beaux-Arts, et donc on a véritablement voulu retrouver l'ADN presque qui était contenu sous-jacent à cette architecture, c'est-à-dire ces pavillons, ces folies qu'on a dans les parcs romantiques, dans les parcs du XVIIIe siècle ou dans certains théâtres de verdure dans les cours royales dès le XVIIe siècle. Donc il y avait tout ça qui était à l'œuvre de façon peut-être imperceptible mais extrêmement précise. Céleste a réinventé cette architecture pour en tirer ses lignes de force, et donc le motif du péristyle est devenu une onde qui véritablement ondule et donc génère une sorte de mouvement donc, qui est contenu dans ces marches. Moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est la façon dont Céleste reconnecte l'hémicycle du théâtre antique avec des formes beaucoup plus radicales d'artistes qui ont étudié justement ces dispositifs scéniques. Qu'est-ce que c'est qu'une scène? Qu'est-ce qui s'y joue? On peut penser par exemple à certains pavillons de Dan Graham où il y a justement ce dispositif en hémicycle qui est réactivé comme dans tout un pan de l'histoire du théâtre, hein, pour abandonner cette question de la scène à l'italienne. Et donc il y a vraiment cette idée de retrouver ces formes presque premières de théâtre ou de mode de représentation ouvert avec les éléments, vu que on a enlevé la verrière du pavillon. C'est un geste qui paraît simple mais qui est essentiel, qui a après d'autres connotations beaucoup plus métaphoriques et politiques, mais en tout cas se reconnecter avec une forme d'essence, d'attention au vivant en fait.
Un mot sur ces marches, parce que donc ces marches sont en mousse, ce qui fait que le spectateur qu'elle invite est un spectateur qui va plutôt s'y allonger plutôt que de rester debout ou assis. Ce qui fait qu'en fait, on a un spectateur qui regarde moins qu'il n'écoute. Et les ondes dont vous parlez, c'est le son que l'on écoute quand on arrive dans ces salles-là. Il y a des baffles qui sont posées au sol. Quel est ce son précisément que l'on entend? Puisque c'est un son qui est connecté avec l'extérieur du bâtiment, avec les arbres. Quel est le phénomène là encore qui se produit?
D'abord, le visiteur identifie ces éléments architecturaux comme de béton. Ah,
tout à fait. Et
c'est ça la chose. Exactement. Donc ça, c'était important de le dire. Et il découvre qu'elles sont souples au corps dès qu'il les touche et dès qu'il s'y assit ou affale. Cette idée est importante parce que pour moi, en tant que visiteur d'exposition, je suis visiteur aussi, je ne suis pas insensible à la présence des autres visiteurs. Donc une partie de mon travail est vraiment axée sur cette dimension. En fait, la simple présence de visiteurs qui sont tous des personnes avant tout et non pas des groupes. Je ne peux pas me substituer à un groupe en tant que personne, c'est impossible pour moi. Et souvent je dis que comme un écrivain a un rapport au lecteur et non pas une rockstar à la foule ou un joueur de football à ses supporters. Ce qu'on entend, j'aime beaucoup organiser le rapport évidemment de l'intérieur et de l'extérieur, faire circuler les choses, en fait toute la logique d'aménagement du pavillon est sous-tendu par cette idée d'une circulation libre et d'un endroit aussi où on trouve sa place, un endroit où on peut se tenir, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'expositions où on peut aller, où on se retrouve comme un idiot entre quatre murs et face à une œuvre qui nous qui nous expulse. Comme j'ai voilà, cette réputation de musicien qui a transposé sa pratique dans le champ des arts visuels, il était impensable de ne pas avoir une œuvre sonore. Moi, j'aurais tendance à penser que le réglage d'un mouvement c'est une sorte de musique pour les yeux, en fait. Le mouvement, quand il est réglé, il y a vraiment un plaisir rétinien qui est de l'ordre, non pas d'une régression, mais réellement, on peut sentir, selon certaines formes de mouvement, des choses qui sont extrêmement jouissives aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on entend ?
Comme tout être vivant, les corps sont parcourus par des tensions électriques de très faible niveau. En connectant les arbres qui entourent le pavillon, on récupère cette tension électrique qui est un courant continu et ensuite on amplifie par diverses opérations de manière à le donner à entendre. Par exemple, c'est un procédé que je reconduis très souvent dans mon travail, à savoir lorsque je me suis intéressé à la vidéo et que j'ai voulu faire des installations, je me suis dit mais pourquoi coller un son avec une image, c'est comme de mettre un pantalon de telle couleur avec telle chemise. Et ça me semblait être un peu manqué de rigueur. Et j'ai cherché dans le signal vidéo à le transduire ou à le transposer en audio, en fait. C'est ce que j'appelle le bruit des images. Et donc, je suis toujours en train d'essayer d'une situation donnée, d'un matériau, pour moi c'est la même chose, d'essayer d'extraire un composant qui module et de redonner forme à ce matériau dans la mesure du possible. Je peux avoir évidemment des déconvenues et changer ma stratégie si le matériau réagit mal. L'idée étant non pas de casser les choses, mais réellement de les reconditionner de la même manière. Tout fonctionne sur le mode du feedback, en fait, on pourrait dire. On peut même imaginer que des gens qui rentrent dans une volière, finalement, ils sont la part d'un signal qui rentre et ils ont l'effet de leur présence qui est en fait la réaction des oiseaux à leur approche.
Ça n'est pas la première fois, Céleste Boursier-Mougenot, que vous allongez vos spectateurs. Vous l'avez déjà fait par le passé, notamment sur des grands sofas, des grands canapés, je ne sais pas comment on appelle ça. Sur cette question justement du spectateur et du corps du spectateur, dans le texte du catalogue Emma Lavigne, vous faites allusion à Aristote, vous vous appuyez sur Aristote. En quoi est-il secourable, Aristote, pour comprendre ou pour élucider le travail de Céleste Boursier-Mougenot ou ce travail-ci en particulier ?
C'est vraiment la façon dont ces œuvres nous rattachent à une cosmogonie, en fait. Cette empathie très très forte pour la personne qui va rentrer dans son œuvre, la façon également dont l'homme est rattaché au cosmos, c'est quelque chose qui intervient très souvent dans son travail, notamment dans la pièce qui est une sorte de déclencheur de notre envie de postuler pour ce concours, vu que pour la première fois c'était un concours, l'œuvre Clinamen, que l'on peut voir à plein de niveaux, soit comme une sorte de musique concrète avec de la vaisselle qui vient s'entrechoquer dans une sorte de mélodie quantique, on va dire, comme quelque chose de mystique, c'est-à-dire une sorte de composition qui est un peu l'équivalent des bols tibétains, ou au contraire dans quelque chose de cosmique, la façon dont l'œuvre d'art nous rattache dans sa forme même, dans cette sensibilité à l'espace, à une dimension qui va beaucoup plus loin. Et dans Révolution, dans la façon dont Céleste a envisagé ses marches, c'était quelque chose aussi véritablement de réunir aussi les humains dans un rapport à l'espace et au cosmos circulaire, unifié, ouvert sur le ciel. Et donc en ça, il y a quelque chose de très fort qui le reconnecte aussi à des pensées comme celle d'Aristote, des pensées beaucoup plus anciennes, cette conscience qu'on est rattaché à une physique d'un ordre beaucoup plus cosmique et symbolique que l'on retrouve dans de nombreuses pièces.
Ce projet Révolution a l'air d'avoir évolué par rapport à ce qui avait été proposé au départ. Enfin, j'avais pu lire qu'il devait y avoir un toit d'écume, qu'il y avait des caméras obscura. Le toit d'écume, par exemple, qui n'y est pas aujourd'hui, parce que le projet a évolué, comment se présentait-il ? De quoi était-il question ?
J'ai entrepris, en faisant un projet sur la plage de Santa Monica en 2010, j'ai travaillé sur le principe de faire envahir une architecture archétypale par une matière organique en mouvement, en fonction de ce que j'appelle du bruit au sens extrêmement étendu. Ça peut être le passage de voitures sur l'autoroute qui jouxte la plage de Santa Monica. Ça peut être des données les valeurs cotées en bourse. Il était question ici à Venise d'avoir cette pièce et donc de recouvrir ce bâtiment et de lui donner une autre forme, de le faire évoluer comme en lui-même une sculpture, quoi. Donc l'idée étant vraiment d'avoir cette structure architecturale qui sous-tend une forme organique qui l'envahit. Ça n'a pas été possible pour diverses raisons. Donc on s'est recentré autour de la transformation du pavillon en faisant éclater la verrière. C'est toujours comme ça, un projet, c'est des idées et puis on est obligé de resserrer. Je ne vois pas comment, je suppose que c'est pour tous les artistes une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a trop de choses et on fait le choix d'épurer, d'aller vers l'essentiel. C'est une pièce qui existera ailleurs, peut-être sur une église romane, sur une villa moderniste, un abribus. Voilà. L'idée étant de faire une sorte de catalogue des formes que cela peut produire. Et ce n'est que remis, en fait. Je crois qu'on est arrivé à une cohérence optimale. Je n'ai pas de contrariété ni de regret.
À propos de contrariétés, difficultés techniques, la question qu'on se pose souvent ici à la Biennale de Venise, c'est à quoi sert un commissaire. Je me souviens qu'on avait demandé à Christine Massel, on avait posé cette question pour Henri Salla, qui nous avait dit très franchement que ça servait à pas grand-chose, si ce n'est surtout à rassurer l'artiste. Hein.
Je crois que cette année, c'était différent parce que c'était un concours. Ouais. Mon rôle, ça a été comme dans le quart d'heure américain, vous savez, où c'est la fille qui invite le garçon à danser. Je pense que les artistes ont besoin d'être désirés. Je pense que c'est très dur pour eux de faire la démarche, de postuler. Donc, j'étais en train d'écrire un texte sur Clean Amen de Céleste Boursier-Mougenot, qui est une œuvre très nourrie par la musique du compositeur vénitien Luigi Nono. Il était à l'autre bout du monde et on était en train de parler. On parlait de Luigi Nono et de Venise quand il y a eu l'alerte du quotidien de l'art disant que cette année, il cherchait un duo commissaire-artiste. Donc je l'ai invité à danser, voilà, on a dansé pendant un an et demi, parfois la piste de danse était assez chaotique, mais pour moi c'est une expérience extraordinaire où j'ai le sentiment d'accompagner l'artiste, c'est quelque chose d'essentiel je pense.
Je pense que c'est indispensable pour aller au fond des choses, on peut se retrouver dans des situations de solitude extrême en fait en tant qu'artiste, c'est-à-dire en fait avoir tout ce qu'il faut sur le plan technique et tout ça, mais... personne à qui exprimer ses doutes. C'est vraiment une relation d'amour. Hein.
C'est vrai que moi, je pense que mon rôle, surtout dans la façon dont on invite les artistes à danser aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de violence qui leur est faite. Je trouve que c'est très compliqué pour un artiste de laisser sa pensée s'exprimer de façon la plus expérimentale possible. Je vois aussi mon rôle comme quelqu'un qui, je l'espère en tout cas, essaye d'ouvrir parfois des voies qui se rétrécissent, des chemins qui sont peut-être très ardus, même si là, au niveau de la technique, moi, je n'ai rien fait. C'est vraiment des grands spécialistes qui ont été là, mais c'est vrai qu'il a fallu recalibrer le projet. Par exemple, Céleste était très triste, et moi aussi, quand Bruit formé n'a pas pu se réaliser, qui est cette œuvre de mousse qui venait transformer véritablement l'architecture comme une sorte de forme organique, de nuage, d'îlot, enfin quelque chose qui ressemblerait finalement un peu à San Michele, le cimetière de San Michele vu par Böcklin dans le brouillard. Il y avait cette déception, on l'a transformée en apprenant qu'il fallait changer les verres, donc d'un truc très prosaïque et technique de la verrière. Et là, j'ai dit, oulala, attention, laissez tout comme ça, on va en parler à Céleste. Et tout à coup, cette dimension assez romantique aussi, de la folie au sein d'un parc, d'une architecture ouverte aux éléments. Et tout à coup, le fait qu'on allait laisser la verrière ouverte remplaçait presque, d'un point de vue de l'essence du projet. C'est un rôle juste magique.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
On quitte le pavillon français parce que la Biennale de Venise est peut-être des dizaines de pavillons nationaux, de représentations nationales, mais aussi
Chaque fois, une grande exposition qui est montée par le commissaire sur deux lieux, le pavillon international dans les Jardini et puis l'arsenal. Cette année, c'est le commissaire nigérian Okui Envezor qui s'en est chargé. Titre de son exposition « All the World's Future », une thématique politique, Manou.
Dans la salle 5 de la Corderie, donc à l'Arsenal, à peu près au premier tiers du parcours, on a rejoint l'artiste français Boris Achour qui présente une pièce et on lui a demandé comment il avait compris le sujet, l'intention d'Okui Envezor.
Une des choses qui est sûre dans cette expo, c'est que ce n'est pas une expo thématique, c'est une expo. Okui parle de filtres. Il a mis en place des filtres liés autour de réflexions sur le marxisme, qui sont des choses qui l'intéressent énormément, notamment en se basant sur le capital et la lecture du capital de Marx, la lecture physique du capital dans l'arène. Donc lui, il a mis en place un certain nombre de filtres qui sont des moyens d'éviter des thématiques et donc tous les écueils qu'on a en général dans les expos à thème. Moi, l'invitation d'Okui, ça m'a permis de donner une impulsion finale, on va dire. C'est une œuvre qui consiste en 6 sculptures et 6 films.
D'un côté, lorsqu'on arrive, vous avez disposé une vitrine sur un double niveau sur lequel on peut voir différents objets ou sculptures qui sont associés à d'hypothétiques jeux, ou en tout cas des objets à manipuler pour jouer.
Quand on passe derrière le miroir, donc derrière cette vitrine, vous présentez 6 films qui sont des mises en scène autour des objets ou des jeux à manipuler, des jeux dont il est précisé dans le titre que vous n'en connaissez pas la règle.
Voilà, le titre français de l'œuvre, de l'ensemble, on va dire, de ce travail, c'est « Des jeux dont j'ignore les règles », avec le double sens que le verbe « ignorer » en français, à la fois « ne pas connaître » et à la fois « refuser », ce qui est un petit peu difficile à traduire en anglais, mais ce qui fonctionne en italien. Je vais plutôt décrire celui-là, puisqu'on est en train de le regarder ensemble. On voit une personne qui dispose des disques de couleur, le deuxième joueur qui pointe du doigt un des disques, et le premier joueur qui remplace ce disque par une autre couleur. Et au fur et à mesure que le jeu avance, ce qu'on pensait être la règle la plus simple et la plus évidente, à savoir que chaque couleur était remplacée par une nouvelle, bien cette règle se perturbe, les rôles s'échangent, les disques se rajoutent les uns aux autres, etc., etc. Puisque une des composantes importantes de ces jeux, c'est qu'il n'y a jamais de gagnant ou de perdant, que ce sont plus des jeux de l'ordre de la collaboration plutôt que de la compétition, et que les films s'arrêtent avant qu'une partie soit finie. Enfin, ce sont des fragments, ces films, pour moi, et on n'a jamais vraiment d'idée d'un but atteint, d'une victoire annoncée ou acquise.
Qu'est-ce qui se joue alors justement dans cet effet recto-verso, c'est-à-dire d'un côté ces objets, ces sculptures qu'on peut voir, mais qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas manipuler, et de l'autre côté, ces films qui miment d'une certaine façon, qui jouent à jouer ou qui miment une hypothétique valeur d'usage de ces sculptures.
Voilà, valeur d'usage. Donc, pour employer une terminologie un petit peu marxiste, il y a d'un côté, on pourrait appeler ça la valeur d'exposition, les sculptures figées dans une vitrine, sur le mode classique de la présentation des œuvres dans des sculptures ou des œuvres dans une exposition. Donc, on ne peut pas y toucher, on ne peut que les regarder, etc. Et de l'autre côté, on a le film avec la valeur d'usage, c'est-à-dire que ce qui, d'un côté, est une sculpture, devient de l'autre côté un accessoire, un objet que des gens peuvent manipuler et... Ce qui est absolument évident dans les films, quand on les voit, c'est que les gens qui manipulent ces objets ne sont pas en train de faire des performances artistiques, ne sont pas en train de manipuler des œuvres d'art, ils sont en train de manipuler des jeux qui sont pour eux totalement banals et dont eux, par contre, les personnages fictionnels des films, eux connaissent les règles. C'est absolument évident pour eux, quand on regarde les films, qu'eux connaissent les règles, savent à quoi ils jouent. Ils ne jouent pas du tout au hasard, ils n'improvisent pas, ils jouent selon une logique propre, que nous, spectateurs, et que moi-même, d'ailleurs, auteur, je ne connais pas.
Pour finir, Boris Achour, quand on expose ici à l'Arsenal, on est aussi spectateur des autres. Est-ce qu'il y a une œuvre plus particulièrement qui vous aurait marqué ?
Ben oui, justement, l'œuvre qu'on a entendue tout à l'heure un petit peu, de Iwa K, qui est un artiste originaire du Kurdistan. Pour la décrire rapidement, c'est une double projection vidéo. D'un côté, on a des gens en Irak qui récupèrent le cuivre des obus et qui les fondent. Et de l'autre côté, on a une usine de fabrique de cloches artisanales qui utilise le cuivre qui provient d'Irak pour fondre une cloche qui contient des motifs babyloniens de Mossoul. Cette chose très simple qu'on voit si on est un petit peu attentif au film, à ces films à lui et qu'on les regarde un peu longuement, c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la relation humaine très forte qui s'est joué par rapport à sa propre histoire à lui et par rapport à la relation qu'il a engagée avec les gens qui fondent le cuivre en Irak et les gens qui fondent la cloche. Ça me plaît, ça m'intéresse ça.
Après l'Arsenal, on ressort pour retrouver les Jardini, direction le pavillon belge, qui a un statut complexe puisqu'il doit alterner présence flamande et présence wallonne. Cette année, les choses se sont un petit peu compliquées avec le choix de Vincent Messen, un artiste bruxellois qui, contre l'usage, a choisi un format collectif et non monographique, ce qui a donné lieu à quelques polémiques. En binôme avec la commissaire Katharina Gregos, Vincent Messen a invité 10 artistes venus de 4 continents différents, avec au cœur de son projet l'histoire, l'impact et les prolongements de la modernité coloniale aujourd'hui, Manou.
Titre de l'exposition « Personne et les autres », un titre emprunté à André Franquin, qui était un critique d'art belge et membre de l'Internationale lettriste et situationniste. On a demandé à Vincent Messen les raisons d'un tel choix, d'une telle référence pour tenir cette exposition collective.
D'abord, il y a une poétique du titre qui est un peu beckettien, comme ça, hein, « Personne et les autres », d'une figure extrêmement obscure, qui est très très mal connue en Belgique, quasiment inconnue d'ailleurs, qui a donc été en contact avec l'Internationale lettriste, qui contribuait à Potlatch, la revue des lettristes, dans laquelle Guy Debord était actif avec Michel Bernstein et d'autres personnes. Et puis qui a donc été en contact assez suivi avec Guy Debord dans les années 50, ils échangeaient ensemble sur les questions des grandes grèves, aussi de la colonisation au Congo, mais aussi sur le cinéma de Guy Debord. Donc c'est une figure qui était un critique d'art, peut-être pas très bon, marxiste, mais aussi un dramaturge, qui était le seul à essayer de poser quelque chose en termes de théâtre au niveau de l'international situationniste. Donc il avait écrit ce texte qui était publié dans la revue Situ, Personne et les autres, préface à l'unité scénique. Et c'était l'idée de développer un théâtre situationniste, c'est une idée qui intéressait beaucoup Debord. Et puis ils se sont disputés en fait sur l'analyse à donner aux grandes grèves de 1961 en Belgique. Et Debord était venu en Belgique, effectivement, parce qu'il s'intéressait de très près au mouvement ouvrier et aux révoltes à ce moment-là. Donc on a perdu la trace de cette pièce de théâtre, on pense qu'elle a été écrite, donc ça m'intéressait beaucoup d'arriver avec le titre, un titre très très beau, « Personne et les autres ». Donc un titre qui mobilisait aussi un imaginaire, on va dire, à la fois poétique et politique.
L'international situationniste, c'est quelque chose que vous travaillez à l'intérieur de l'exposition avec une pièce centrale dans l'exposition. C'est un film que vous avez tourné à Kinshasa, c'est ça ? Autour d'une chanson créée en 1968. Peut-être pourriez-vous nous raconter l'histoire de cette chanson, de quoi parle-t-elle et comment vous êtes entré en contact avec elle ?
J'avais réalisé une exposition en 2008 à Anvers, à Extra City, dans laquelle l'introduction de l'exposition, c'était en fait des photos de 1962 de la conférence des situationnistes à Anvers, qui est un moment extrêmement important dans l'histoire du mouvement, puisque c'est le moment où les situs vont en fait débarquer les artistes et les renvoyer chez eux, et où le mouvement va se radicaliser, devenir véritablement un mouvement politique. Puis je m'étais intéressé à cette époque-là à la présence de Nord-Africains dans l'international situationniste et je ne comprenais pas bien que les commentateurs français, aussi nombreux soient-ils, s'intéressaient si peu à cette dimension que moi je pensais essentielle aussi pour essayer de comprendre le rapport que les lettristes et les situs ont eu à la décolonisation. Et donc j'avais commencé certaines recherches et puis un directeur d'un centre d'art m'a appelé il y a un an et demi en me disant « Écoute, j'ai devant les yeux un truc assez drôle, dans les archives de Raoul Van Eghem, il y a un texte, il me disait en Lingala, c'est en réalité du Kikongo, qui est une chanson écrite par un situationniste congolais. » Et je me souvenais, pour quand même avoir lu bien les situs, qu'il y avait cette photo d'un Congolais dans une des revues, effectivement. Et donc j'ai commencé les recherches et puis j'ai retrouvé un de ces deux Congolais qui était un étudiant... qui avait été l'élève de Raoul Van Eghem, que Van Eghem avait emmené avec lui à Paris. Et donc, ils avaient participé brièvement, mais quand même pendant un an, aux activités des situs. Donc, il y avait deux Congolais qui ont fait partie de cette histoire-là. Et donc, j'ai retrouvé Joseph Mbelolo, toujours bien vivant, incorruptible, prof d'UNIF, qui n'a jamais voulu participer à aucun gouvernement, et qui a vécu en exil jusqu'au milieu des années 80, étant en opposant à Mobutu. Donc on avait évidemment quelque chose d'extrêmement fort comme point de départ, puisque Venise est le lieu où a eu lieu la dernière conférence situationniste en 1969. Et donc là, c'était le point de départ de mon projet, où je triangulais Kinshasa, Venise avec Bruxelles, et en ligne de mire, on avait effectivement une histoire totalement inconnue de l'international situationniste à travers la participation de Congolais à cette aventure-là.
Debord, Raoul et les autres avaient détourné des chansons populaires en mai 68. Par contre, moi, je l'ai composé moi-même comme ma contribution à cette effervescence révolutionnaire qui nécessite une jonction entre la masse et les théoriciens qui étaient les amis l'international situationniste. Cette chanson, je l'ai composée en Kikongo, mais dans une perspective internationaliste. C'est pour cette raison que, d'abord, j'ai évité d'utiliser la langue que Mobutu avait imposée, c'est-à-dire le Lingala. Vous savez que la plupart des rumba, des chansons congolaises, c'est dans ce chant à Lingala. J'ai choisi le Kikongo comme une forme de résistance aussi à Mobutu. Alors, cette chanson était circonstanciée. C'est-à-dire, ce sont les événements de mai 68 qui m'ont amené à la composer.
De quoi parle la chanson ?
C'est un chant insurrectionnel, écrit en langue Kikongo, et qui va parler d'internationalisme, qui est écrit dans une perspective internationaliste, qui essaie de liguer en fait, les travailleurs, qu'ils soient asiatiques, européens ou africains, et effectivement de produire un renversement. Donc on est dans une chanson qui va mentionner à la fois les soulèvements à Nanterre et à Paris, les enragés et les situs, en langue Kikongo, qui est la langue du Bakongo. Donc on est quand même dans une forme complètement inouïe, produite par cette modernité coloniale, par ces rencontres entre une jeunesse étudiante congolaise qui va être mise en contact avec une avant-garde internationale et ça va produire cette forme. Donc c'est à la fois un document inconnu et quelque chose qui méritait une remise en musique et une mise à l'épreuve du réel aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez peut-être vu dans le film, au moment où je suis en tournage à Kinshasa, éclate en fait une insurrection populaire extrêmement importante, à mon avis, dans la vie politique congolaise des dernières années. Puisque ça a mené à la fois à des tirs à balles réelles sur les étudiants, à la fermeture de plusieurs télés, à la coupure d'Internet, et donc à un espèce de blackout total d'une gravité sans précédent. Enfin, on n'a jamais connu ça à Kinshasa. Donc il se passait quelque chose d'inouï, c'est-à-dire qu'au moment où on essaie de mettre à l'épreuve cette chanson du passé, redébarquait dans le réel, en fait, un élément qui l'a rechargé et qui fait que ce film, je pense, dit quelque chose.
On comprend bien, Vincent Messène, que ce territoire-là, situe en tout cas, vous occupe. Quelle serait votre dette à vous, en tant qu'artiste, envers ce corpus-là, le corpus situe ?
La question, évidemment, c'est de comment on hérite plus largement que des situs. Comment est-ce qu'on hérite d'un héritage critique ? Et ça, c'est l'enjeu de mon travail de ces dernières années. Comment est-ce qu'on hérite d'un héritage critique aujourd'hui dans des pratiques artistiques qui tentent de préserver l'héritage de la discursivité en essayant de produire quand même aussi, moi, ce que j'appelle les nouvelles positivités. C'est-à-dire qu'on est en train de considérer qu'à travers des formes artistiques, on est à même aujourd'hui de contester le régime de vérité de l'histoire, de l'historiographie. Cette réflexion sur la place de l'œuvre d'art dans la nécessité de repenser les paradoxes de notre modernité. Et cette modernité, elle ne peut pas faire semblant de ne pas voir que la colonisation a été un marqueur fondamental à la fois d'expansion de l'Europe, mais aussi de la modernité en termes conceptuels et des idéaux qu'elle a voulu projeter.
Pourquoi était-ce important de travailler ces questions-là ici ? Dans un pavillon, dans une représentation nationale, est-ce que ça correspond à un moment précis du débat contemporain en Belgique sur ces questions postcoloniales ?
C'est vrai que, peut-être à contrario de la France, où il a fallu attendre extrêmement longtemps, enfin, ça reste quand même extrêmement minoritaire dans le champ de l'art aussi, la façon dont ces questions-là sont posées. En Belgique, depuis une dizaine d'années, il y a une série d'artistes contemporains qui vraiment se situent évidemment à la marge des discours, si on compare à ce qui peut se distribuer dans les médias. Mais il y a eu une attention donc, des artistes pour commencer à revisiter très sérieusement la question coloniale. Donc il y a un terrain, il y a un discours, il y a des pratiques qui se sont façonnées ces dernières années et donc c'est quelque chose qui est devenu assez présent. Et c'était aussi important de rendre ça dans un pavillon, puisqu'en fait c'est la première fois que le pavillon est à la fois collectif et qu'il se penche et fait un travail constructif à mon avis et critique sur cette histoire qui reste une histoire à la fois de déni, de difficulté à gérer et à parler de ça en société aujourd'hui en Belgique. Et c'est un moment important aussi que ça se passe dans le champ de l'art et que ça se fasse de cette manière-là, à mon avis, qui est peut-être aussi, effectivement, pas un registre militant, pas un registre de la repentance. On est sur quelque chose qui est une façon de problématiser ces questions-là et de les agencer à travers des formes.
Alors justement, vous avez outrepassé la loi du genre, parce que généralement, dans le pavillon belge, il n'y avait qu'un seul invité qui faisait un solo show. Vous êtes plus ou moins le curateur pour d'autres artistes que vous avez invités. Quel était le cahier des charges que vous avez donné aux invités ?
Je pense que le cahier des charges, il était plutôt une série d'invitations avec des déclencheurs, on pourrait appeler ça des déclencheurs, c'est-à-dire que plusieurs choses ont été offertes, partagées aussi avec les artistes, des choses qui, pour la plupart, émanaient de recherches que j'avais faites ces dernières années, parfois des formes, parfois des idées, parfois des lieux où aller chercher, continuer des recherches. Par exemple, Elisabetta Benassi, je pensais que ce serait très bien qu'elle ait travaillé au Mundaneum à Mons, qui est ce projet encore assez mal connu, mais de gens qui, au début du siècle, ont imaginé en fait qu'il fallait absolument archiver le monde et qui ont créé des centaines de milliers de fiches en archivant en fait toute la connaissance du monde. C'est vraiment l'idée d'Internet avant la lettre, et un schéma a été dessiné par l'inventeur et le concepteur de ce Mundaneum qui allait archiver le monde et qui est précisément la préfiguration d'Internet. Par exemple, Samy Balogi, que je savais être occupé à travailler sur les rapports de l'abstraction et de la scarification sur les corps, j'avais trouvé un document de la sûreté coloniale où un Africain dénonce en fait un membre d'une secte, et je me rendais compte en fait qu'il y avait un truc complètement dingue qui se jouait là, puisqu'il y avait deux sociétés secrètes qui s'affrontaient, les sociétés du masque qui étaient en train de s'opposer au pouvoir colonial, et le service secret belge qui était occupé à essayer de maîtriser en fait ces révoltes.
Comme on le disait tout à l'heure en ouverture, ce pavillon belge est le lieu d'une exposition collective, et parmi les 10 artistes exposés dans ce pavillon, on a rencontré Mathieu Abonin qui nous a rejoint. Manou,
première question, comment Vincent Mécène lui a présenté ce projet ?
Vincent nous avait proposé une sélection d'œuvres qu'il connaissait d'à peu près tous les artistes en nous disant bon voilà, on part sur cette base-là. Et le projet, c'était vraiment autour de l'international situationniste et de sa connexion avec et la rumba congolaise et le Congo justement. Et donc lui, il voulait beaucoup parler des luttes d'émancipation, de décolonisation, et en essayant de prendre des biais, plusieurs biais. Il me semblait que parler de l'émancipation, de la décolonisation, bah, c'était aussi intéressant de prendre comme base cette abolition de l'esclavage dont il est question aussi dans le film de Vincent, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la domination, comment on peut la déjouer, comment on peut la regarder autrement en fait, tout simplement.
Alors peut-être qu'on pourrait décrire les œuvres très rapidement. Moi, je vais juste donner le dispositif. Sur les murs, une série de photos noires et blancs. Et sur le sol, en contrepoint, une installation de sculpture, on va dire, de moulage fantôme, puisqu'on voit juste, on va dire, en creux, visage, bras et doigts. Comment vous articulez ces deux temps? Et surtout, qu'est-ce qu'on voit sur les photos?
C'est des photos de la statue en bronze qui se trouve en Guyane française. Donc on voit Victor Schœlcher, vraiment, qui a travaillé à l'abolition de l'esclavage, et donc la deuxième abolition de l'esclavage, puisque Napoléon l'avait remise en cours. Et donc Victor Schœlcher a fait tout ce travail pour l'abolition, et là on le voit qui tient un jeune homme, donc un jeune homme libre, qui n'a pas de nom, et qui est dénudé alors que Schœlcher est en redingote, et il le regarde avec un regard un peu paternaliste, mais qui est très classique en fait de l'iconographie abolitionniste, on va dire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement ce trouble qu'il peut y avoir dans leur contact, dans la façon dont ils se touchent, dans la façon dont ils se résistent, et qui pourrait être quelque chose de l'ordre, entre guillemets, de l'érotisme, et qui me semblait être une bonne façon de tenter de déjouer justement ces rapports de domination. C'est-à-dire que quand il y a de l'érotisme, on ne sait jamais où se jouent les rapports de pouvoir et les rapports de force.
Vincent Mécène nous expliquait, Mathieu Abonin, tout à l'heure, que c'est vrai que ça correspondait à un moment particulier, peut-être en Belgique, où les artistes prenaient en charge depuis une dizaine d'années ces questions coloniales et post-coloniales. Vous, comme artiste français, est-ce que vous avez le sentiment que ce débat-là est bien pris en charge, suffisamment pris en charge en France?
Ça reste compliqué, mais du fait aussi de l'histoire française, c'est-à-dire que les Antilles-Guyane ont été départementalisées en 1947, et que effectivement il y a eu la décolonisation, on va dire, des territoires sous domination française en Afrique, mais il y a encore tous ces îlots, on va dire, les confettis de l'Empire, comme on les a bien nommés, et qui font que la question ne se pose pas dans les mêmes termes. C'est-à-dire que la Belgique en a terminé dans un sens avec une histoire, et donc on peut vraiment se réemparer de ces questions. Et je pense qu'en France, les questions ne peuvent pas se poser de la même façon, et du coup ça prend plus de temps. On est dans une période post-coloniale, mais on n'a pas le... Il n'y a pas la prise en charge. Après, il y a beaucoup d'artistes en France qui travaillent sur ça. Il y a beaucoup de centres d'art qui... en ce moment, il y a une exposition à Béton Salon qui essaie de questionner aussi la représentation des moments de décolonisation. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent en fait, c'est juste qu'il n'y a pas eu une représentation d'un type aussi symbolique qu'une participation à la Biennale de Venise sur ces questions-là. On n'en est pas là encore.
Eh bien, c'est avec ce pavillon belge qu'on a terminé notre visite. Manu Farine, peut-être une dernière information. La Biennale de Venise se poursuit jusqu'au
22 novembre prochain, donc vous avez le temps d'aller la voir.
Et la prochaine, ce sera dans 2 ans.
Au fur et à mesure que le jeu avance, les rôles s'échangent.
Venise avec Bruxelles.
Dans la façon dont ils se résistent.
Il n'y a jamais de gagnant ou de perdant.
Merci à tous nos invités, Céleste Boursier-Mougenot et Malavigne. Révolution, c'est au pavillon français à Venise. Je signale qu'on pourra retrouver Céleste Boursier-Mougenot à partir du 24 juin au Palais de Tokyo à Paris pour son exposition Aqua Alta. Boris Achour, sa pièce Des Jeux dont j'ignore les règles, c'est à l'Arsenal, toujours à Venise. Quant à Vincent Mécène et Mathieu Abonin, l'exposition Pavillon Belge a pour titre Personne et les autres. Vincent Mécène, on pourra le retrouver aussi jeudi prochain dans le cadre de l'exposition Lumière de Roland Barthes au FRAC Aquitaine à Bordeaux. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Voilà, comment tu fais des creepers ? Putain, mais plus de mobs, mec ! J'ai dû passer à côté, ça les a fait spawner à mort.
Waouh, demain, des youtubeurs et des gamers dans le cadre de la journée spéciale sur France Culture, Culture Nouvelle Génération, avec Salomé Lagrelle et François Descrac. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Aïssa Touenda et Elsa Béranger. Journal de la culture, Adrien Nezeli, à la prise de son Bruno Gagnard-Fontani et à la réalisation, Lise Combe.
Il est temps de nous quitter, vous êtes sur France Culture. Bah, c'est bien. Et tout de suite, comme chaque soir, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors, bonne soirée et à demain.